Ouellette.
Non. Écoute, là, franchement, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
C'est un constat qui nous frappe. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière. On parle beaucoup d'immigration depuis un certain temps. Puis avec raison, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas échapper en tant que société. Il faut que ce soit bien géré, l'immigration. C'est bien là, l'histoire, le cœur sur la main, puis on est accueillant. Puis à un moment donné aussi, ça prend les ambitions et les ressources qui vont avec. Tu peux avoir de l'ambition, mais pas de ressources, ou l'inverse. Et je sais pas si tu te souviens, Pat, je pense que c'est la semaine dernière, ben on l'a fait le constat. C'est parce qu'à un moment donné... on nous dit, ouais, mais là, l'immigration, tu sais, puis c'est difficile de mêler toutes les cultures. Il y a des cultures moins propices à, puis il y a ci, puis il y a ça. Puis là, il faut couper, puis on en veut moins. Mais l'enjeu de base, c'est le renouvellement de la population.
On fait plus de bébés.
Et voilà.
Pis on ne se renouvelle pas.
Et c'est le sujet de notre chroniqueur, justement, Denis Julien, à qui on parle aux deux semaines, puis on s'ennuie la semaine d'après. Comment ça va, Denis?
Bonjour, ça va bien? Vous deux également?
Ouais, oui, bien mieux que... Ben, j'allais dire mieux. Non, je pense pas. Ça va moins bien que Magali, mais ça va bien.
Ah, Magali, elle est extraordinaire pour nous.
Elle
est tellement au syndicalisme que je veux qu'il la conserve longtemps.
Revenons à notre sujet. Parce que la question, à un moment donné, ce n'est que ça, Denis. C'est comment on fait pour renouveler une population si celle-ci ne fait plus de bébés?
Oui, ben parce que on parle beaucoup de l'immigration, puis quand à un moment donné on creuse, on dit mais si on n'accueille pas notre population, de toute manière va tomber de manière en absolu à chaque année, il y a plus de décès qu'il y a de naissances. Oui. Donc on est condamné à une baisse graduelle. Mais il y a des discours en arrière de ça. Moi, ce qui m'intéressait dernièrement, c'est que je lis beaucoup sur la mobilité sociale, puis je suis tombé sur un sondage qui avait eu lieu, qui avait été tenu par un sociologue qui s'appelle Samuel Perry de l'Université d'Oklahoma. Puis lui voyait qu'il y avait vraiment deux discours tranchés puis qui touchaient les jeunes femmes, là, celles qui sont responsables du taux de fécondité, des femmes de 18 à 35 ans en moyenne. Puis il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas beaucoup d'écart entre les enfants... le nombre d'enfants que voulait avoir une femme qui se disait conservatrice versus le nombre d'enfants que voulait avoir une femme qui, en moyenne, se serait située plus à gauche. Et là, ça a commencé à beaucoup s'écarter. Moi, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas vraiment une grosse dissonance entre le fait pour une jeune femme de dire « ben moi, je veux avoir une carrière et je ne considère pas que ça va m'empêcher d'être mère de famille. Je vais rusher pendant un temps, mais avec mon mari, je vais m'organiser. »
On va être capable.
Il n'y avait pas de dissonance. Puis tranquillement, il y a eu un discours, puis il est très perceptible aux États-Unis parce qu'il prend en plus des traits très idéologiques à gauche et plutôt religieux à droite. Puis ça, je vais vous donner les résultats à la fin de l'écart de fécondité, mais je voulais vous jaser des discours en premier. Par exemple, à l'université, dans les médias mainstream qui appellent, de plus en plus, ce qu'on entend de la part de jeunes femmes qui sont plutôt à gauche, c'est « ben écoute, on peut pas tout avoir dans la vie, puis les enfants, c'est ça ou la carrière. » Fait que moi, je choisis la carrière.
Puis dans les cercles de gauche, moi, j'entends des affaires bien pires que ça. Là. Genre, enfants, ça tue la planète. Puis
je veux pas les condamner à ce monde qui va ressembler à celui qu'il y a dans Mad Max bientôt.
Ouais.
Mais il y a quelque chose de disons, plus égoïste là-dedans. Parce que l'autre discours, c'est ça empêche la carrière,
ouais.
Ça appauvrit, parce que l'argent qu'on met là-dessus, on ne le met pas en autre chose, on voyage moins, on vante même le célibat, on veut pas d'enfants parce que le conjoint, tu sais, c'est un homme blanc.
C'est drôle, hein, parce que ça vient de la gauche, mais c'est très égocentré, là. Tu sais, c'est très moi, ma vie, c'est moi, mes choix, mon argent, mes voyages, tu sais, c'est... Alors que ça vient de la frange qu'on nous dit ouverte là, sur le monde.
Oui, ça empêche la femme de se réaliser. Pour elle, là, la jeune femme de gauche, ben, on lui a appris à... Je parle beaucoup de l'université parce que c'est là où la construction du discours idéologique se fait et se comprend bien.
Ouais.
Fait que la femme qui passe par là, en sciences sociales, supposons, puis qui apprend que l'homme est un quasi-violeur permanent, qu'une chance qu'on surveille un peu, que l'homme blanc est mauvais, qu'on détruit notre planète.
Ouais, c'est ça.
Écoute, ça finit plus, puis finalement, elle risque de se retrouver seule pas mal plus souvent que quelqu'un d'autre qui veut une famille très tôt. Le discours contraire, lui, il a commencé à se développer beaucoup plus, mais en dehors des médias mainstream.
Ouais.
On le voit, là, il est plus sur les podcasts. Tu sais, les histoires à la Charlie Kirk aux États-Unis, il y en a d'autres. Il y a des Ben Shapiro. Il y a d'autres discours qui se tiennent pour dire, écoute, il n'y a pas de contradiction. On peut tout avoir. C'est juste qu'on ne peut pas tout avoir en même. Fait que si vous fondez une famille jeune, puis qu'il y ait un échange de rôles, un partage des rôles entre conjoints pour que tu mettes le temps qu'il faut quand les enfants sont jeunes. Ensuite, devant l'école, ça prend déjà un peu moins de temps dans le jour. La femme va pouvoir avoir une carrière, une vie est longue maintenant. Puis elle va pouvoir avoir les deux, mais elle sera beaucoup plus riche. Elle aura une vie beaucoup plus riche et pleine si elle a une famille et si elle est entourée d'enfants également d'un mari. Ce discours-là, il pointe beaucoup. Ah, ben, il est vu de droite extrême et nataliste, mais eux, ce qui est drôle, c'est comment ils revirent ça contre l'ancienne gauche en leur disant, ben, vous nous avez tenu un discours longtemps à l'effet qu'on était matérialiste, mais c'est vous qui l'êtes, parce que vous nous dites qu'on est égoïste et libéral et capitaliste, mais c'est vous qui êtes matérialiste. Vous voulez juste
ben
oui. Des bébelles.
Ah, c'est fou.
Vous voulez pas de sacrifices, vous voulez pas de donner de temps.
Moi,
à un enfant. Oui, c'est beaucoup ça. Puis c'est très drôle de voir le retournement du discours à l'effet que l'égoïste, l'hédoniste, le matérialiste, celui qui veut pas se conduire en adulte, qui est un consumériste, c'est la gauche.
C'est incroyable.
C'est très étrange, la différence entre les deux. Et là, ce qui a commencé à être mesuré, c'est vraiment l'écart de fécondité. Écoute, pour te donner une idée, les femmes en 18 et 35 ans, en 2024, il y a un sondage qui a été mené sur plusieurs années, puis tu vois l'évolution de ça. Bien, une femme qui est plutôt conservatrice qu'en 18 et 35 ans, en 2024, à 75%, ces femmes-là, c'est-à-dire la femme conservatrice,
ouais.
C'est à 40%, elle est avec elle n'a pas d'enfant. C'est très faible. 60% en ont. Tandis que la libérale, elle, celle qui est de gauche, qui a entre 18 et 35%, elle, à 75%, elle est sans enfant.
Wow!
La différence est de 35%.
OK, attends un peu, je vais faire un constat dramatique, là, mais ce qu'on est en train de vivre, c'est à cause de la gauche.
Essentiellement. J'aurais cru que Vincent Gélozo, vous en avez déjà parlé, parce que je l'ai déjà entendu le dire sans dire d'où ça venait exactement, là, mais en gros, c'est qu'il y a vraiment une baisse de natalité, mais essentiellement,
à gauche.
Elle est causée par la gauche.
Parce que si 60%
à gauche qui a des enfants.
Tu sais, Denis, mais... si je prends le taux de des femmes de droite, puis on dit femmes parce que c'est les femmes qui enfantent, là, malheureusement, désolé pour les fragiles, là, mais ouais. Si on y va avec le taux des femmes plus à droite, à 60%, tout va bien, là. On renouvelle. Là.
Oui. Si c'était le même taux
partout.
Pour les deux, on n'aurait pas de problème. La difficulté. Puis en plus, c'est que moi, je vois une seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que les gens de gauche ne se reproduisent pas. Mais à part.
Hey, c'est vrai, t'as bien raison.
Mais au Québec, ça... ils sont nombreux, par exemple.
Hey, bonne affaire!
Mais ça devient fou parce qu'en même temps, ils ne te parlent que d'égalité. Ils parlent souvent de l'égalité des chances. Égalité des chances pour qui?
Pour moi.
Tes enfants? Tu sais, ce qu'on veut, nous, en mobilité sociale, quand on parle plutôt que rendre égal, prendre à ceux qui ont plus puis donner à ceux qui ont moins, c'est dire, ben non, on est plus brillant que ça, là. On veut que quelqu'un qui vienne au monde dans une famille qui est dans le 20 % de ceux qui gagnent le moins, ben si tu viens d'une famille comme ça, on veut accélérer la vitesse où il y aura un grand nombre qui va peut-être devenir salarié ou qui va avoir des revenus qui se situent dans le 20 % des plus riches. Ça s'appelle la mobilité sociale. Tu n'as pas de mobilité sociale si tu n'as pas d'enfants. Puis en plus, c'est que tout ce qui est le discours et les études sur la mobilité sociale, j'en lis beaucoup de ce temps-ci, entre autres, ce que tu veux le plus pour un enfant, surtout s'il vient d'un milieu défavorisé, c'est qu'il puisse compter sur des adultes en qui il puisse avoir confiance, qui vont tout projeter, ils vont voir son futur, ils vont y tenir, ils vont investir là-dedans, ils vont le projeter. Mmh. Alors, de dire « je veux pas être parent, je veux pas participer à ça », il y a quelque chose de dérangeant là-dedans. Aux États-Unis, ça prend une couleur plus religieuse, parce que ça va beaucoup, beaucoup ensemble, mais t'as pas besoin d'être religieux pour croire à la famille.
Non, c'est comme un phénomène de
non, j'en suis la preuve. Là.
Oui, puis peut-être qu'il l'idéalise aussi. Tu sais, si tu entends le discours à la Charlie Kirk, il y a une grande idéalisation. Mm-hmm. Il reste que quand on a, comme moi, j'ai une jeune nièce qui est vraiment dans le pire, là, tu sais, deux jeunes filles, là, deux petites filles, là, une qui vient juste de rentrer en première année. Écoute, les deux parents rossent.
Ah oui.
Les deux parents travaillent en même temps, puis on en jase, puis elle voulait, ma nièce, là, très jeune, elle savait qu'elle voulait des enfants. Elle savait ça tout de suite. Ouais. C'était quasiment dans les premières questions, quand ça commençait à être sérieux avec un gars, si le gars il disait « moi, j'en veux pas », écoute, ça allait pas plus loin
on
que ça.
On niaisera pas, ouais.
Elle avait ça très jeune. Là, et c'est tough des fois, là. Ouais, mais moi, on l'a eu l'expérience de la famille plus longue. T'as pas idée ce que ça donne quand ta fille devient la meilleure mère du monde puis tu as des petits-enfants. Ouais. Tu n'as pas idée de la vie que ça donne quand la famille a été quelque chose qui a été une grande préoccupation pour tout le monde.
Parce que
c'est beaucoup plus riche que ce qu'on pense.
Moi, j'ai toujours dit, oui, tellement, ça c'est vrai, ça c'est beaucoup plus riche que ce qu'on faut le connaître pour le savoir, c'est quelle richesse, là, parce qu'elle ne s'explique pas, elle se vit, cette richesse-là.
C'est une vraie richesse mais naturelle.
Ça, mais tu sais, de l'anxiété puis une peur qui arrive, c'est quelque chose là, à ton enfant. C'est ça. Ça arrive avec le fait que quand on devient parent, on a quelque chose qui naît en nous qui. Là, on se. Ah, tu sais, dans la vie, tu penses
mais ça, il y en a qui l'ont pas, mais oui, en général.
Non, mais en général, quand même, tu sais, je ne veux pas parler de ceux qui sont pas sur le poste, là, évidemment, mais je trouve que ça vient là. Puis il y a une autre affaire aussi, c'est que il y a des gens qui attendent trop et qui sont plus capables d'en avoir.
Ouais.
Y a ce phénomène-là qu'on parle pas assez souvent, malheureusement, en disant « Ah, oh, je vais en avoir à 40 ans, puis à 40 ans, pas capable d'en avoir, parce qu'on baisse en fertilité, que ce soit chez l'homme et la femme. Il y a une baisse importante. » Puis aussi, c'est drôle, hein, parce que ta gauche, là, un peu saucée, là, qui se reproduit pas, là, Dieu merci, ben cette gauche-là, là, j'ai perdu mon idée, moi, t'as dit. Je m'en allais quelque part, j'oublie mon idée. Elle va me revenir.
Tu peux t'en donner une, si tu veux.
J'ai oublié.
Denis, c'est un pourvoyeur d'idées.
Non, mais c'est ça, je veux dire. Je trouve que des fois, elle fait semblant d'être super heureuse et épanouie. Puis des fois, dans sa jeunesse, oui, mais plus qu'elle vieillit, plus je trouve des fois ces femmes-là un peu aigries.
Mais moi, je trouve ça triste. Puis je voulais conclure avec ça, Pat, en disant, je salue tous ces gens qui vont peut-être réaliser à 70 ans qu'ils vont mourir tout seuls aussi. Là.
Ouais, ça, on le réalise pas quand on a 20
ans.
Quand
t'es dans la fin de l'âge, puis tu voyages,
c'est quelque chose d'égoïste que quelqu'un, si quelqu'un disait « moi, je veux des enfants juste pour que quelqu'un s'occupe de moi plus tard ».
Parce que je suis pas un automatiste, Denis. Je veux dire, ça se peut aussi que tes enfants soient pas là à la fin de ta vie. Là. Ça dépend de ce qui s'est passé dans la relation. Là.
Mais moi, je vois, puis je l'ai constaté, parce que j'ai eu une clientèle qui était essentiellement familiale. Puis qui pensait beaucoup au patrimoine, puis qui pensait beaucoup à aider ses enfants, puis à les projeter plus loin. Puis on est engagé, mais sur toute une vie. T'es même à la retraite, t'es engagé. Et c'est ce qui peut aider également. Quand la famille est une institution qui est forte, qui porte sur deux, trois cohortes, elle s'aide, ces cohortes-là. Fait qu'à un moment donné, tes enfants apprennent le rôle de parent, t'en es enchanté. À un moment donné, c'est toi qui as besoin de soin de ton propre enfant, puis tu te laisses aller. Moi, je me souviens, mon père, c'était l'homme le plus autoritaire puis autonome que j'ai connu dans ma vie. J'aurais jamais pensé qu'il avait besoin de moi à un moment donné. Puis quand il a commencé à être vraiment malade, il m'a tout confié. Il m'a dit, moi, j'ai fait ma part, c'est à toi de prendre soin de moi. Puis je me serais jamais attendu à ça. Juste le fait qu'il me l'ait dit, ben, je me suis dit, ben, un jour, je vais être obligé probablement de demander ça à ma fille, mais j'y avais jamais pensé. Mm-hmm. Il y a quelque chose là-dedans qui est très solidifiant. Ça fait partie du... c'est la partie probablement la plus riche du tissu social. Puis pour des gens comme nous qui sont plutôt méfiants face à l'État, ben la famille, c'est une institution intermédiaire qui peut aider à résister.
Et
L'État est bien contente de faire face à un individu seul.
Oui, oui.
Ah, ouais.
Hey, Denis, les chiffres étaient bons, mais je pense que la réflexion derrière est encore meilleure. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. On se parle dans deux semaines.
Bienvenue.
Salut. Bye. Salut, bye. Denis Julien, mesdames, messieurs, économiste et homme de famille. On
oui.
Ouellet.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.